Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus nombreux et nombreuses. Donc merci beaucoup d'être là à cette dernière rencontre de l'année. On se donne rendez-vous après mi-janvier pour essayer de continuer des rencontres si le contexte le permet. On est ravis ce soir d'accueillir Elsa Dorlin, Manon Labrie, pour la sortie de ce livre « Feu, abécédaire des féminismes présents » qui est sorti il y a quelques semaines chez Libertalia. Voilà, donc je ne dévoile rien, je laisserai Marine peut-être présenter aussi Elsa et Manon, si elle l'a prévu. Et on remercie donc Marine Rouge qui devient notre spécialiste des rencontres féministes et qui va faire organiser un peu la discussion. Et puis ensuite, vous passez la parole. Donc, on avait accueilli Elsa il y a quelques années pour se défendre, donc dans cette édition de poche. Et Manon Labrie était venue nous présenter il y a quelques années aussi Riot Girls. Voilà. Donc, vous retrouverez tous ces livres à la caisse, devant la caisse. Voilà. Merci à toutes et très bonne soirée.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Enfin, bonsoir. Je vais vous présenter, mais je pense que tout le monde ici vous connaît toutes les deux. Mais je suis ravie de présenter cette discussion entre Elsa et Manon. Alors, Elsa est professeure de philosophie à l'UT2J. Elle a publié de nombreux ouvrages qu'on vient de citer. Parmi ces ouvrages, il y a La matrice de la race, Généalogie sexuelle et coloniale de la nation française, paru en 2006. Il y a aussi Sexe, genre et sexualité, Introduction aux philosophies féministes en 2008. Et puis, donc je disais, Se défendre que Fabrice a présenté. Et puis, elle vient de coordonner ce gros livre au titre très inspirant de tout point de vue, on va le voir. Et puis Manon Labrie, qui est docteur en civilisation nord-américaine, qui est spécialiste de sous-culture punk féministe nord-américaine. J'espère que je ne me trompe pas. Elle a publié plusieurs ouvrages sur le sujet. Le premier, Riot Girls, chronique d'une révolution punk féministe en 2016. Et puis l'année d'après, Pussy Riot Girls, émeutière. Et puis elle signe un article dans Feu sur les Ladyfest. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, pour lancer la discussion, tout d'abord, j'ai lu dans les remerciements du livre que ce livre avait été pensé par toutes les deux il y a un peu plus de 5 ans. Alors, oublions que le livre existe. Et est-ce que vous pouvez peut-être revenir un petit peu sur la jeunesse du livre, sur ce qui vous a fait réaliser qu'un tel livre était nécessaire à ce moment-là, si vous le voulez, bien sûr, sinon... Pas...
Non, mais sur la jeunesse du livre, et les remerciements sont pour Manon, évidemment, parce qu'il se trouve que l'expression ou la volonté ou le désir de faire une histoire populaire des féminismes, elle est née, entre autres, parce que à l'occasion de la sortie de Riot Girls et aussi de la rencontre avec Manon, la publication, la volonté de publier, et que Manon m'avait gentiment... et très féministement demandé de faire la préface que j'ai jamais pu écrire faute de temps Et j'avais proposé la préface sur une histoire populaire des féminismes à l'occasion précisément de tout le courant anarcha-punk féministe et de culture populaire transatlantique. Et donc voilà, c'est à l'origine, il y a 5 ans, les discussions elles sont parties de la rencontre avec Manon, des discussions que ça manquait. Cette idée d'une histoire des féministes qui soit pas qui fasse un pas de côté sur les histoires officielles ou même sur les anthologies qui sortent et qui sont aussi parfois on va dire qui ont une dimension relativement opportuniste en mettant en exergue par exemple des grandes figures de l'histoire du féminisme. Et la volonté, c'était plutôt de faire une histoire des mouvements, des collectifs, une histoire par le bas, une histoire par les archives grises du militantisme qui génère en fait toute une pensée radicale, révolutionnaire, et aussi sur une archive vivante des collectifs auxquels en fait on a participé, qu'on a aimé, que j'ai aimé, avec qui j'ai pensé, je me suis formée. Et donc c'est une histoire de ces 20 dernières années qui est une histoire très à la fois éminemment politique, éminemment radical et éminemment intime, en fait.
Oui, non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Non, je pense que tu as dit l'essentiel.
D'accord, merci. Alors, dès l'introduction, tu parles de renouveau du féminisme, et c'est vrai que ce livre arrive à un moment où on a l'impression que le féminisme n'est plus un discours minoritaire à proprement parler. Et tu rappelles que, justement, l'impression de ce renouveau féministe peut être trompeuse. Donc, je me demandais si tu pouvais nous dire pourquoi il est peut-être important de questionner cette expression, en fait, de renouveau, en quoi elle peut être trompeuse. Et aussi, quelles sont, et tu en parles un petit peu dans l'introduction, quelles sont les spécificités de cette vague, même si, évidemment, le terme peut être questionné, il l'a été en histoire. Quelles sont les spécificités de cette vague en fait, qui a débuté à la fin des années 90 et qui est au début des années 2000 et qui continue de déferler comme ça?
Alors, je dirais que la problématique du renouveau du féminisme, c'est presque un symptôme d'antiféminisme, de parler en ces termes. Donc, en fait, l'idée, c'était de questionner, parce qu'en fait, c'est comme si à chaque génération, on parle de renouveau féminisme ou des nouveaux féminismes ou alors on parle pas beaucoup de révolution, enfin mais on dit voilà, enfin je veux dire d'un point de vue mainstream, c'est cette idée là ou de jeunes générations, etc. Ce que j'ai voulu faire, c'est à la fois capter ce qui faisait quand même une spécificité historique, intellectuelle, politique des collectifs de ces 20 dernières années, en disant que en fait ce qui est apparu avec MeToo en 2017, et si on remonte d'ailleurs vraiment à la genèse de MeToo, c'est 2007 plutôt, et sur l'émergence en fait de ce mot d'ordre. Et au fond, MeToo, c'est une sorte de mouvement qui a radicalisé et qui a politisé à nouveau frais la violence structurelle, les violences faites aux femmes et aux minorités sexuelles, et qui a qualifié en fait ces violences non pas d'une sorte de résurgence d'une sorte de misogynie ancestrale ou de spécificité de telle ou telle culture ou religion, mais qui a vraiment compris et politisé les violences sexuelles faites aux femmes et aux minorités, l'effet d'un patriarcat, enfin d'une structure de domination, et qui témoignait aussi probablement de la nécessité de repenser le patriarcat dans le contexte contemporain lié au néolibéralisme, lié à l'ensemble des, euh, des discriminations et violences et injustices racistes et de classe. Donc voilà, c'était vraiment cette idée-là. Donc il y a quelque chose qui est à la fois inédit, qui n'est pas nouveau, parce qu'en fait, la politisation des violences, elle est, on va dire, multiséculaire dans l'histoire des femmes ou l'histoire des féminismes. Mais il y a une politisation inédite et qui témoigne en fait d'un certain nombre de courants au sein des féminismes qui montrent que le curseur, il s'est déplacé du côté de la radicalité. C'est-à-dire que finalement, pendant ces dernières décennies, on avait eu tendance à avoir un féminisme, en tout cas celui qui apparaissait dans le débat public, était très sur la question des droits, ce qui ne veut pas dire que les droits ne sont pas importants, mais en tout cas qui était dans une dimension très légaliste, on va dire. Et à partir des années 2000, puis effectivement avec 2010, 2015, enfin 2017, on va avoir plutôt un féminisme qui a des tendances beaucoup plus radicales, radicales au sens qui prend à la racine le problème, et à la racine du problème, c'est l'État, c'est le capitalisme, c'est le continuum des violences économico-sexuelles et racistes, et c'est ça qui est ciblé. Et au fond, ce livre, il est un hommage à cette constellation de courants.
Et d'ailleurs, dans ce mouvement, tu dis aussi qu'il y a un retour de ce terme patriarcat qui avait été éclipsé pendant un temps au profit de celui de domination masculine. Et je voulais savoir si toutes les deux, vous pouviez nous parler un petit peu peut-être de l'enjeu, en fait, de remettre au centre des discussions féministes et des luttes féministes ce terme de patriarcat et pourquoi celui de domination masculine était problématique.
Oui, et aussi, pardon, sur le renouveau, il y a aussi une dimension évidemment qui est liée aux réseaux sociaux, évidemment aux réseaux sociaux et à finalement une réconciliation d'un certain nombre de courants féministes, notamment dans le contexte français, avec des positions internationalistes qui sont ultra fortes et qui témoignent aussi d'une sorte de mobilisation et de politisation des enjeux sont aussi une critique de l'instrumentalisation nationaliste des enjeux féministes de ces dernières décennies, sur lesquels on peut revenir si vous voulez, mais qui est assez massif. Et donc sur le deuxième, la question du patriarcat et de la domination masculine. Bon, c'est vrai que Pierre Bourdieu, c'est super. Enfin, après, c'est pas le meilleur livre qu'il ait fait, la domination masculine, il faut quand même l'avouer, hein. Et pourtant, ça a été vraiment une sorte de référence obligée, alors même que l'on sait, au moment où la domination masculine est sortie, que Pierre Bourdieu, d'une part, ce n'était pas son meilleur livre, d'autre part, il avait beaucoup puisé dans un corpus féministe sans forcément le citer, et notamment de Colette Guillaumin et d'autres, et sur la question de cette conceptualisation de la domination masculine. Et par ailleurs, même dans l'œuvre de Pierre Bourdieu, la domination masculine, c'est presque une sorte de hiatus par rapport à son propre univers conceptuel. Et avec cette idée très forte où on ressort du livre avec ce goût amer dans la bouche, où au fond, ce qui est exprimé, c'est qu'il y a une forme de, si ce n'est de complaisance, du moins une forme de douce collaboration des dominés avec leur propre oppression, avec leur propre situation de domination. C'est-à-dire, en fait, il y a no future, quoi, il n'y a pas d'issue. Et ça, c'est-à-dire qu'il y a même une forme d'esthétisation de la domination de laquelle on ne s'en sortira pas, parce que ça empêche une sorte de prise de conscience, en fait, de ces conditions d'oppression. Et or, cette tradition de la domination masculine, ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que ça met aussi, et ce qui est très interrogé de ces dernières années, c'est la domination masculine a tendance, évidemment, à homogénéiser le groupe social des hommes sans prendre en considération fondamentalement, justement, ce qui en structure aussi à travers les antagonismes de classe, les processus de racialisation, ce qui crée des modalités différentes, en fait, dans les rapports de pouvoir et qui font que les hommes n'occupent pas de façon homogène, massive et identique, la même, enfin ne jouissent pas des mêmes privilèges et ne n'occupent pas la même position dans les rapports sociaux. Donc ça, c'était très important. Le patriarcat, c'est une référence à la fois à Delphi et en même temps, ce n'est pas une référence à Delphi, c'est aussi une référence à toutes les autres conceptualisations du patriarcat, dont une des plus importantes ces dernières années, et on le sait parce que ça a eu beaucoup de succès, y compris éditorial en France, ce sont les travaux de Silvia Federici, qui repose à nouveau frais justement le patriarcat comme un ciblage sur le mode de production capitaliste, sur la question de l'État, donc sur des structures en fait de la domination. Et puis il y a une chose qui est très importante aussi, c'est du côté des féminismes afrodescendants ou tout simplement de la référence à Angela Davis, qui est une des plus grandes théoriciennes féministes marxistes africaines-américaines. En fait, depuis les années 70, c'est la question du patriarcat, c'est-à-dire finalement le féminisme se pose comme une force révolutionnaire face en fait à des structures, encore une fois, que sont le capitalisme en tant qu'il est à la fois patriarcal et raciste. Et je rappelle qu'Angela Davis, Femme, race, classe, s'est publiée en 81 aux États-Unis, s'est traduit en 82 en France. Donc aujourd'hui, quand on nous fait le coup du wokisme, ça me laisse rire, quoi. Enfin, ça me fait rigoler, pardon.
Donc, Feu, c'est donc, vous l'avez dit, c'est une cartographie des luttes féministes d'aujourd'hui. Et j'imagine que en faisant ça, au moment de la conception, de réfléchir aux des invitations, aux autrices et autoristes, j'imagine qu'il a fallu aussi faire dialoguer des différences de positionnement et ou par rapport, voilà. Et je me demandais comment tu as géré ça. Est-ce que voilà, je trouvais ça intéressant de savoir comment, en concevant ce livre et puis en travaillant dessus, c'est-à-dire en lançant les invitations, etc., comment tu avais géré ça. Et puis, quelle marge aussi de liberté dans la façon d'écrire, je veux dire, tu avais laissé aux personnes qui ont participé, parce que j'ai lu plusieurs notices, évidemment, et puis on n'est pas dans quelque chose, on peut avoir des notices très universitaires, d'autres très personnelles, d'ailleurs, qui touchent beaucoup. Voilà, je me demandais comment tu avais fait ça.
Le livre, d'abord, c'est ni une cartographie, ni évidemment un dictionnaire, ni une encyclopédie. C'est vrai que le terme abécédaire a une dimension qui laisse un peu plus ouvert, en fait, qui est moins, qui est un peu plus libre. Et puis c'était c'est un clin d'œil. Mais le choix des entrées. Donc, il y a plus de 60 entrées, près de 68 autrices. Il y a trois auteurs. La façon dont ça s'est construit, c'est que d'abord, je voulais qu'il y ait des entrées à la fois qui ne viennent pas fermer une question. Par exemple, il était très important pour moi que la réflexion autour de l'articulation des rapports de pouvoir, elle court tout au long du livre sur n'importe quelle entrée. Il était très important, par exemple, aussi d'avoir un positionnement qui déjoue les cartographies officielles, les géographies même officielles du féminisme. Donc, par exemple, c'était ultra important pour moi de me situer aussi en Martinique, en Guadeloupe, il n'y a pas de Guyanaise, mais en tout cas, il y a beaucoup de perspectives, on va dire, guyano-antillaises qui sont très fortes. Et ça, c'était un enjeu pour moi. Et puis, ensuite, il y avait aussi des choix presque stratégiques en termes de conscientisation politique. Donc, il y a des entrées auxquelles je tenais beaucoup, comme l'entrée cancer, qui pour moi est une question qui est vraiment minorée dans la réflexion féministe, alors qu'il s'agit d'une maladie politique et qui pose vraiment des enjeux en termes de corps, en termes de politique publique de santé, en termes de solidarité, en termes de construction des stéréotypes de genre, des injonctions sexuelle, esthétique, etc., qui pèse sur le corps des femmes et sur la question également du soin porté et des enjeux aussi en termes de recherche publique, par exemple. Donc c'était très, très fort pour ça, mais il y a plein d'autres entrées. L'entrée squat, l'entrée gilet jaune, l'entrée frontière. Voilà, il y avait des enjeux politiques qui étaient très forts. Après, comment j'ai choisi les personnes? En fait, c'est clair, ce ne sont que des personnes que j'aime. Donc voilà le critère. C'est-à-dire que c'est aussi un objet qui est un ovni, parce que même dans les critères, il n'y a ni exhaustivité, ça ne prétend pas à l'exhaustivité, ça ne prétend pas non plus à être un style homogène. Donc je donnais une entrée à quelqu'un et finalement, parce que je savais que cette personne, j'avais envie de la lire là-dessus, et le style était totalement libre. Voilà. Donc ça pouvait être effectivement des personnes qui sont universitaires, journalistes, militantes, syndicalistes, artistes, intellectuelles, voilà, c'est travailleuses, tout était, et ça, je pense que ça relève d'une histoire intellectuelle féministe. Donc c'est une histoire intellectuelle féministe, la façon dont on fait, y compris de déjouer un certain nombre de binarismes entre ce qui est universitaire et militant, ce qui est théorique et pratique, ce qui est conceptuel et empirique, ce qui est le je et le nous, ce qui est la biographie, enfin le personnel et le politique. Voilà, tout ça pour moi, ce sont des binarismes qui nous empêchent en fait de concevoir nos propres outils, nos propres imaginaires. Et ça, c'était très fort. Enfin, en tout cas, moi, je voulais faire ça. Et le choix après, ça a été un choix d'amour, d'admiration. Toutes les personnes, de près ou de loin, encore une fois, c'est des tendances, c'est les tendances à la fois divergentes, différentes, mais qui sont dans des radicalités révolutionnaires. Et c'est toutes des personnes ou des courants qui m'ont formée, éduquée, avec qui j'ai milité, avec qui j'ai pensé, avec qui j'ai travaillé, que j'ai aimé, avec qui j'ai ri, avec qui j'ai fait la fête. Voilà.
Oui, alors il paraît qu'on peut enlever nos masques toutes les trois et ça fait du bien. Alors, parmi ces entrées, il y a donc Lady Fest. Voilà. Est-ce que maintenant tu peux nous parler de cette entrée-là?
Oui, tout à fait. Donc oui, en effet, c'est l'entrée que j'ai rédigée. Les Lady Fest, ben, ce sont des festivals féministes, anticapitalistes, la plupart du temps autogérés, qui sont directement les héritiers de la culture punk féministe nord-américaine, enfin au départ, qui s'appelle les Riot Girls et qui est née dans les années 90 aux États-Unis, c'est les Diffest en France. Ils ont rencontré un franc succès parce que justement dans les années 90, l'histoire des Riot Girls en France n'était pas très accessible, voire presque pas accessible, et que du coup, en fait, une fois qu'Internet s'est un peu démocratisé, et donc à partir du début des années 2000, il y a toute une population européenne et française qui s'est réjoui de la panacée de l'opportunité d'organiser des Lady Fest en se disant que elles avaient raté la culture Riot Girls et que là il fallait s'emparer de cette nouvelle forme que prenait cette culture Riot Girls en organisant ces festivals punk, mais pas uniquement aussi, puisque c'est une différence avec la culture Riot Girl. Les Lady Fest se sont ouverts aussi à d'autres genres musicaux. Les Lady Fest, ils réalisent un petit peu l'idée que les Riot Girls se faisaient d'elles-mêmes dans les années 90, à savoir leur objectif était révolutionnaire. Elle se radiait sous le slogan Revolution Girl Style Now, la révolution à la manière des filles maintenant. Mais qu'attendait-elle de cette révolution? En fait, c'était pas une révolution qu'elle voulait. C'était pas la révolution telle qu'on peut en avoir l'image mentale. C'était une révolution plus patiente et qui s'additionnait de révolutions individuelles, en fait. Et ces révolutions individuelles, elles passaient par, notamment la prise de parole et la créativité. Donc, finalement, c'est cette créativité qui est le nerf de la guerre de cette révolution punk féministe. Et les Ladyfest ont été un moyen de continuer cette espèce de contagion révolutionnaire sous une autre forme que celle que prenait le premier mouvement des Riot Girls, qui s'était déjà fait digérer. Et en fait, il y a, ce que j'ai retrouvé dans plein d'autres entrées, vraiment, ça m'a frappé. Moi, j'ai découvert le livre il n'y a pas longtemps. Je ne savais pas qui y avait d'autres. On en a parlé tout à l'heure. Et ce que j'ai retrouvé, c'est d'abord cette espèce de métaphore de la contagion. C'est le pouvoir des imaginations par rapport à un système qui cadenasse tout et dans lequel il faut toujours chercher des failles. J'ai trouvé pas mal de textes dans lesquels il y avait ce lexique de la faille, de l'interstice, de la contestation en biais. De l'invention de nouveaux langages, de nouveaux imaginaires, cette entrée, c'est une forme parmi d'autres de ces questions, de ces volontés de faire une révolution pas à la manière du système.
Et est-ce que tu... Alors moi, quand j'ai lu ta notice, j'étais très, très intéressée par la notion de do it yourself, de dig. Et donc je trouvais ça très intéressant parce que c'est une notion qui est quand même reprise par la machine capitaliste. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cet aspect-là justement qui se développe dans les Ladyfest?
Oui, alors donc le do it yourself, DIY, c'est un concept qui est vieux comme le monde, qui tient une place très importante dans la culture punk, à l'origine vraiment dans le domaine de la création musicale, c'est-à-dire que à l'origine du punk, il y a des gens qui étaient saoulés par l'expertise, par en fait le manque d'investissement, le manque de d'honnêteté presque, je sais pas comment le dire autrement, dans les productions musicales des années 70, etc. Et qui se sont dit, nous on sait pas jouer, mais par contre on trouve rien qui nous plaît dans tout ce qui se fait actuellement, on va compenser cette expertise par notre énergie, par notre élan, en fait. Il y a toujours problème d'authenticité, mais bon, ça fait un vaste débat. Mais donc voilà. Et donc à l'origine, c'est vraiment dans le processus de création en lui-même. Mais après, ça se double aussi d'un côté plus politique, et notamment avec le temps dans la culture punk. Et ça devient aussi la manière de contourner des logiques marchandes capitalistes. Par exemple, pour la diffusion de la musique, en créant des labels, ou bien en créant aussi des médias parallèles avec les fanzines, en s'organisant aussi avec la culture du squat, et qui là, du coup, vraiment place le do-it-yourself au cœur même de l'existence. C'est un outil que se sont vraiment appropriés les Riot Girls. Et après, les gens qui ont développé les réseaux punk underground après elles, parce que le DIY, quand on est une femme, qu'on nous propose une culture qui nous ressemble pas du tout, à travers des magazines ou des émissions télé, vraiment qui sont pas satisfaisants, c'est une manière, et par la musique, mais aussi par les fanzines, etc., de s'approprier le processus de création, de proposer un modèle qui nous ressemble davantage, tout simplement de pas se taire, en fait, et de contourner, en tout cas dans le cas des Riot Girls, ça a été un moyen de proposer leur version des choses, en fait, voilà. Enfin, bon, je sais pas si j'ai été claire.
Oui, ça me fait penser, c'est une sorte de recherche d'éthique féministe, peut-être aussi, qui sous-tend dans les pratiques, non?
Je sais, c'est peut-être...
je pensais à éthique féministe parce que je me disais aussi que dans la conception de cet ouvrage, il y avait aussi une éthique féministe qui était là. Mais je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ça, sinon c'est pas...
Non, mais en termes d'éthique, au sens de pratique de soi, voilà, dans le faire en fait, advenir aussi comme sujet. Donc, il y a plein de formes de subjectivation. Fatima Wasak, qui fait l'entrée mère, par exemple, elle raconte toute la mobilisation dans les quartiers populaires et la façon dont on articule aussi, dont on vit la mobilisation féministe à partir justement de l'auto-organisation, de l'autodétermination et qui signifie concrètement dans le prosaïque le faire manger, le nourrir, le toit, le vêtir, l'éduquer, la question de la liberté de circulation, etc. Donc ce sont aussi de revenir à des réflexions qui portent sur nos conditions matérielles d'existence et sur des formes de vie aussi possibles. Qu'est-ce qu'une vie vivable pour les féministes et en tant que féministe, etc. Donc c'est une vraie réflexion qui va toucher. Il y a une entrée éducation sexuelle qui est écrite par Ovidie. Il y a une entrée sur la question de l'écologie radicale. Sur le travail, justement, par Morgane Mertheuil qui fait une entrée sur le travail qui s'intitule « Refus du travail ». Parce que pour toute une partie en fait, des courants féministes, notamment dans une perspective marxiste, en fait, la revendication au travail, elle a été portée par les féministes sur un refus du travail, un refus des conditions d'exploitation. Et donc voilà, je pense que si on parle d'éthique, il y a aussi des choses qui sont peut-être plus dans la question... du plaisir, de cette jouissance aussi, de trouver des formes d'expression, et notamment ça passe par, toute la question du corps, de la création, de l'écriture de soi, quoi.
Merci. Alors, on a parlé un peu du sous-titre, abécédaire des féminismes présents, mais pas vraiment du titre principal, c'est-à-dire feu. Est-ce qu'on peut s'y attarder un petit peu? Parce que j'ai parlé avec pas mal de personnes sur le titre, et chacune avait sa propre interprétation. Alors, ça faisait référence à la Révolution, au podcast de Lorraine Bastide, La Poudre, donc c'était assez lié, l'explosion, ou bien au dernier... ça évoquait aussi le dernier ouvrage, mon plus récent, bien sûr, mais de Wendy Delorme, Viendra le temps du feu. Donc je me demandais comment cette idée était venue et quelle était la référence qu'il y avait derrière, si vous avez quelque chose à en dire toutes les deux.
Il y a Wendy Delorme qui fait justement une entrée sexualité, donc sur dissidence justement sur la sexualité. Feu, bon, il y a plusieurs choses. C'est clairement, on comprend bien que c'est là une histoire souterraine des collectifs, des courants, des mouvements, des soulèvements. Il y a beaucoup d'entrées sur évidemment qui débordent largement les frontières de l'Hexagone, et donc il y a une très grande référence au mouvement de femmes des printemps arabes. Il y a une référence très très forte à l'Argentine, au Chili, au Mexique, mais il y a aussi des références à Hong Kong. Enfin voilà, c'est cette idée de brasier qui partout se sont enflammés, mais finalement en tout cas où dont les braises sont ravivées. Mais feu, c'est un positionnement politique qui prend position à la fois dans le débat politique contre la récupération des enjeux féministes, mais qui prend position à l'intérieur du féminisme sur aussi des positionnements, comme je le disais tout à l'heure, qui consistent à dire qu'il ne s'agit pas de demander plus de lois pour nous protéger ou nous défendre, etc. Donc de demander plus de protection au père, au mari, à l'État, au patron, etc. Mais de se réinscrire dans cette généalogie qui est à la fois faite d'anarchisme, d'internationalisme, de socialisme, de mouvements révolutionnaires, indépendantistes, anticolonialistes, et qui clairement ont fait que les mouvements féministes se sont posés comme sujet révolutionnaire, et c'est le cas ici. Après Feu, il y a plusieurs petits clins d'œil. Il y a un clin d'œil au portrait de la jeune fille en feu de Siama, et il y a un texte de Adèle Haenel dans le livre qui est justement à qui j'ai confié l'entrée Feu, et qui est sur à la fois son histoire et la façon dont elle a de penser les violences, et notamment la question de qu'est-ce que c'est que politiser, enfin se politiser comme victime. Et puis il y a une référence très forte et un hommage et une, là encore, une déclaration d'amour au mouvement chilien, mexicain, argentin. Et je ne sais pas si vous voyez les images de ces militantes qui lance des cocktails Molotov sur des bâtiments qui appartiennent à un grand journal, ou dans le métro, ou sur les tribunaux, et qui mettent le feu à proprement parler au patriarcat en identifiant les institutions qui en assurent la pérennité. Et puis la troisième référence qui est très forte, elle est à James Baldwin. Et James Baldwin a un texte sublime qui s'intitule « La prochaine fois, le feu ». Et donc là, l'idée, c'était, enfin voilà, en hommage à Baldwin, de dire cette fois le feu.
Il y a un petit passage de l'introduction qui est très puissant, je trouve. Je vais le lire, c'est juste 4-5 lignes. Alors cette fois, le feu. Les féminismes comptés dans ce livre sont autant de brasiers allumés, de contre-feux dans un monde partout calciné par le patriarcat, c'est-à-dire par le néolibéralisme autoritaire et répressif, le racisme mortifère, l'impérialisme écocide. Donc ça dit beaucoup de ce que tu viens de ce que tu viens de dire. J'ai une question qui s'adresse à toutes les deux, parce que c'est un livre qui donne à voir des stratégies de résistance féministe, mais c'est aussi un livre qui dévoile les expériences vécues de la violence, finalement, des violences hétéropatriarcales, racistes, néolibérales. Et est-ce que vous voulez bien dire quelques mots sur cela, c'est-à-dire sur les enjeux de dévoiler la violence à partir de l'expérience vécue, sur l'importance peut-être de la notion d'expérience vécue, son potentiel à la fois épistémologique et pratique, dans la lutte contre les violences patriarcales?
Oui, alors, patriarcale, oui, et pas que, moi, ce que je retiens de toutes les entrées que j'ai lues dans le livre, c'est que le système a vraiment mis de la violence partout, de plein de manières différentes. Que c'est compliqué de s'attaquer à un espèce de truc vraiment bien pervers, vraiment à tous les niveaux, en fait. Enfin, comment dire, justement, toutes les expériences que j'ai pu lire grâce aux entrées qui sont hyper variées, c'est de voir que au final, c'est pas mal de termiter par un axe, et puis de multiplier les termitages. Je suis pas claire, et je sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, je suis en train de me manquer, et je m'enterre.
Sur l'expérience vécue, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est mon objet là de réflexion en tant que philosophe, etc. Bref, peu importe, mais dans l'histoire de des pensées féministes, la question de l'expérience vécue, elle est fondamentale, en fait. C'est vraiment un pivot de la conscientisation politique. Et par conscientisation politique, c'est-à-dire la saisie, en fait, du réel et de notre réalité. Et cette saisie du réel, quoi, qui nous permet aussi d'avoir une prise sur ce réel. En fait, c'est ça qui crée le basculement de la conscientisation politique. Et ça signifie d'abord que il faut l'expérience vécue de la violence, elle est de toutes parts complètement euphémisée, défigurée, marginalisée, invisibilisée, rendue inaudible. Et en témoigne, je ne sais pas s'il y a juste ce petit point qui, pour moi, est fondamental, c'est-à-dire en l'espace de quelques années, la question des meurtres des femmes sous les coups de leurs conjoints est passée de la rubrique faits divers, drame conjugal, drame familial, à vraiment la qualification par le terme de féminicide. Et ça veut dire que ce n'est pas seulement un changement de vocabulaire, c'est que précisément sur une expérience vécue de la violence crasse, largement, communément en fait, partagée par des milliers de personnes, un mot suffisait à la rayer du réel commun, de la réalité sociale, c'est-à-dire dire c'est un fait divers, c'est un drame, c'est précisément, vous voyez, un effacement non seulement de la réalité, un effacement de cette réalité qu'on partage, mais c'est aussi une forme d'effacement de soi, c'est-à-dire on nous efface du monde en fait, et ça crée des formes aussi de disjonction de conscience, c'est-à-dire que comment se ressaisir soi-même comme personne, comme sujet, alors même que ce que je vis est en permanence effacé du réel. Donc même pour moi, c'est une sorte de combat au jour le jour, presque charnel, presque... Voilà, c'est très complexe. L'engagement féministe, c'est d'essayer de redensifier, de rematérialiser cette expérience vécue et de la politiser, précisément, parce que cette expérience vécue, elle n'est pas isolée, elle n'est pas le fait d'une psychologie, d'un individu, d'une histoire singulière. Elle est le fait, en fait, d'un rapport social dans lequel on est prise. Et donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment... c'est là où il y a aussi une forme de radicalité de la pensée et une forme une charge révolutionnaire de ce qu'on fait dans ce dévoilement des expériences vécues. Et donc, quand on lit dans l'ouvrage les apatistes, les femmes kurdes, les féministes romanies qui racontent en fait aussi leur mobilisation, c'est très fort. Il y a beaucoup de textes qui sont au jeu. Il y a un très beau texte sur la schizophrénie, qui raconte pas la schizophrénie de façon allégorique, qui raconte comment, en tant que féministe, qu'est-ce que ça veut dire d'être schizophrène au sens diagnostiqué du terme. Et ça renvoie finalement à toute cette idée selon laquelle le patriarcat ou l'hétérosexisme, pour le dire vite, c'est pas seulement un système de discrimination juridico-politique, c'est un système qui blesse psychiquement les individus, qui empêche en fait qu'on se ressaisisse même pour se donner la possibilité de dire je.
Merci. Alors je regarde l'heure en même temps. Est-ce que peut-être que vous avez des questions à poser, j'imagine, parce que c'est très riche. Donc n'hésitez pas à nous dire. On peut passer le micro. Oui.
Merci beaucoup pour cette intervention. C'était très très intéressant, très enrichissant. Du coup, comme je vous disais, Elsa Drolin, étant étudiant en sociologie du genre, on a beaucoup étudié ce que vous avez écrit, donc c'est un honneur de vous rencontrer. Et en ce sens, j'avais plusieurs questions. Alors par rapport à vos théories et aux livres, et à ce que vous avez dit aussi, je me demandais en fait si selon vous, alors j'ai plusieurs questions. L'avenir du féminisme, en définitive, ça, ou des féminismes, c'était justement de continuer un petit peu dans cette troisième vague qui est encore plus ou moins trouble, parce que ça vient de commencer, ou si ce ne serait pas d'aller dans un avenir peut-être idéaliste dans lequel le féminisme irait se fondre, entre guillemets, dans tout ce qui est les luttes de personnes dominées, qui sont des luttes antiracistes ou les luttes LGBT. Et du coup, ce qui m'amène à la question qui m'interpelle quand même, c'est vous avez beaucoup parlé de ça et je ne sais pas si vous avez pensé, mais je me demande comment ça se fait qu'aujourd'hui il n'y ait pas de mouvement, de grands mouvements en fait qui soient intersectionnels ou consubstantiels par exemple, qui aient rassemblé un petit peu toutes ces luttes et qui aient une légitimité politique en fait, qui parce que vu tout ce qui se passe de discrimination vécue. À l'heure actuelle, je me demande comment c'est possible qu'il n'y ait pas de grands mouvements, en fait, j'allais dire défenseurs, mais enfin, de grands mouvements qui rassemblent ces luttes-là et qui puissent avoir un poids politique très important. Alors peut-être qu'il existe, mais je pensais par exemple au combat e-River collectif. Je ne sais pas si ça existe encore, enfin, s'il y a un mouvement aujourd'hui comme ça en France qui peut exister. Et après, très, très rapidement, juste par rapport à ce que vous avez parlé. Des méthodes de défense, je voulais avoir votre opinion sur la non-violence, voilà, dans le féminisme.
Elsa, je te laisse répondre si tu veux choisir pour laisser la place à d'autres questions aussi, oui, choisir merci. Une.
Merci beaucoup. Alors, il y a plein de collectifs afro-femmes, et il y a plein de collectifs féministes afro-descendants. Il y a le texte de Fania Noël dans le livre sur l'intersectionnalité politique, justement. Donc bien sûr qu'il existe, il y a les collectifs féministes martiniquais, guadeloupéens, enfin voilà, il y a énormément de collectifs et finalement la question de l'intersectionnalité qui est l'enjeu de l'intersectionnalité, c'est d'appréhender évidemment la question du rapport de genre sans jamais l'isoler des autres rapports de genre, enfin des autres rapports de pouvoir, mais en fait ça c'est un peu une espèce de gymnastique de l'esprit, parce qu'en fait, la façon dont vous vivez le rapport d'oppression, vous ne pouvez pas distinguer ce qui est la part du sexisme, du racisme, de l'antagonisme de classe. Enfin, voilà, donc, en tout cas, il y a des collectifs. Quand vous dites, est-ce que vous vous étonnez qu'il n'y a pas, comme le combat e-River collectif, c'est 10 militantes, quoi. Enfin, ouais. Donc, c'est pas un mouvement de masse aux États-Unis. Non, ouais.
J'ai pas l'impression, par exemple, qu'il y ait eu une résonance comme ça en France, par exemple.
Là, bien sûr que si, c'est maintenant. C'est ça, et il y a les collectifs, encore une fois, c'est vraiment maintenant. Et sur cette. Je crois que ce qui est très important, probablement, il y a une expression que j'aime beaucoup qui est celle d'une poétesse américaine qui s'appelle Adrienne Rich et qui s'adresse, en fait, qui est une poétesse blanche, féministe, blanche, juive. Qui a été en dialogue avec un très très beau dialogue avec Audre Lorde, qui est une poétesse lesbienne, féministe, africaine-américaine. Et Adrienne Rich a cette expression qui dit voilà, le sortir du solipsisme blanc. Donc, c'est l'interpellation qui en fait est travaillée au sein notamment des courants, des mouvements féministes. Donc, ça c'est très fort. Et puis, l'autre chose, pourquoi il n'y a pas de représentation? Parce que. Finalement, dans la majeure partie de l'histoire du féminisme, des féminismes, les féministes se sont toujours méfiés précisément de la représentation et de la représentativité, c'est-à-dire à qui on délègue notre propre pouvoir à nous autodéterminer et à déterminer depuis notre position la façon dont on choisit de se libérer. Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un enjeu idéologique très fort sur le fait d'imposer aux mouvements féministes ou aux femmes la bonne façon de s'émanciper. Et ça, c'est vraiment d'une violence extrême. Et puis la dernière chose, je ne sais pas, sur la violence. Pardon. moi, je suis vraiment sur la question d'un féminisme de l'autodéfense et donc aussi sur des formes d'autodétermination et d'auto-élaboration de nos propres outils de lutte et de résistance, et qui passe par des formes d'autodéfense à la fois physique, intellectuelle, verbales, créatives, mais aussi des formes d'autodéfense les plus prosaïques qui soient, c'est-à-dire encore une fois sur nos conditions matérielles d'existence, sur la question de l'accès tout simplement au manger, au boire, à se loger, à se vêtir et à la liberté de circulation. Voilà, ça pour moi c'est de l'autodéfense, mais finalement ça c'est pas seulement sur la question et ça souvent c'est qualifié de très violent. Mais la question elle est à l'adresse de tous les mouvements et toutes les mobilisations sociales aujourd'hui. On est dans l'autodéfense. Enfin, je veux dire, la politique aujourd'hui c'est de l'autodéfense, c'est défendre des conditions de vie possibles et vivables. Et donc ça passe par un continuum de ressources qui vont de l'action directe non violente à l'action directe violente, mais dont finalement on est dans des formes où il n'y a pas le choix. Mais ce qui est très dangereux finalement, et juste, juste deux minutes, ce qui me semble très dangereux, c'est la lutte idéologique qu'il y a sur le terme de violence depuis des années et des années. C'est-à-dire qu'est-ce qui est qualifié de violence et qu'est-ce qui ne l'est pas, et quelle est l'autorité qui décide du contenu sémantique de ceci est violent, ceci n'est pas violent. Donc, par exemple, une statue de plâtre sur l'Arc de Triomphe qui est cassée, c'est qualifié d'extrême violence. Mais effectivement, des dizaines, des centaines, des milliers de morts dans la Méditerranée, dans la Manche, des tentes lacérées au cutter, ça, c'est qualifié de maintien de l'ordre ou de défense des frontières de l'Europe. Donc voilà, à partir de là, il n'y a même plus de distinction à faire entre violence et non-violence. On voit bien que c'est complètement biaisé.
Y a-t-il d'autres questions ?
Bonsoir, donc merci pour votre intervention. Moi, je m'interroge, c'est pas pour être dans la provocation, mais sur la nécessité, en fin de compte, de ces revendications, de se dire je suis féministe, il y a des problèmes d'intersectionnalité, etc. Je me dis qu'à force de donner trop d'importance à ça, on passe à côté de je vis ma vie et j'avance quand même. À force de dire oui, il y a du racisme, le patriarcat est très présent, à force d'y prêter trop d'attention, en fin de compte, on passe à côté presque de la vie et de faire son chemin, en fin de compte. J'ai l'impression qu'il y a un focus un peu, je ne vais pas dire exagéré, parce que c'est bien là, mais l'expérience vécue, effectivement, c'est aussi ce qui se passe dans la tête. Si on se dit, mais je suis victime parce que je suis noire, parce que je suis une femme, parce que je suis entourée d'hommes, est-ce qu'on ne se met pas en position de victime quelque part, hein ? Et je me demande si ça aussi, ce n'est pas dangereux.
J'entends aussi sur la question, en tout cas sur la catégorie de victime, c'est une catégorie juridique. Ça serait vraiment, il faudrait prendre plus de temps pour décortiquer ce qui s'est passé, mais il y a aussi une forme de, on a entendu un certain nombre de mouvements et de revendications féministes, on les a entendus et on les a autorisés à rentrer dans le débat public à partir du moment où elle passait par le vocable de la victime. Et cette idée que, à partir de là, alors du coup, ça autorisait, vous voyez ce que je veux dire, victime de violence. Donc ça, ça pouvait apparaître à un moment donné dans le débat public, précisément parce que ça donnait les moyens à l'État, par exemple, de se présenter comme le défenseur des droits des femmes, de faire des plans priorité du quinquennat sur les violences faites aux femmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'elles sont victimes. Et donc, la victime appelle, de toute façon, cette idée qu'il y a un sauveur, qu'il y a quelqu'un qui vient sauver. Au-delà du fait que, par exemple, la justice reconnaisse ou pas, on sait très bien que c'est le parcours de la combattante d'être de toute façon juridiquement reconnue comme victime. Mais dire, il faut faire sa vie, etc. Moi, bien sûr qu'il faut faire sa vie. Enfin, la question, c'est que, là encore, il y a cette expression géniale d'une philosophe féministe américaine qui s'appelle Denise Riley et qui dit... au bout d'un moment, vivre dans le genre, par exemple, dans mon genre, ça me rend claustrophobe. Vivre effectivement dans cette question de de la description par le menu des discriminations et des violences, oui, ça rend, y a une sorte de passion triste, mais en même temps, c'est là, en vrai. Donc, comment se construire malgré tout dans des formes d'émancipation, de trajectoire, de cheminement individuel, subjectif, ça me semble inédit, mais enfin ça me semble essentiel, mais je vois pas en quoi l'un est contradictoire en fait. Je pense que les deux, c'est notre quotidien. Et par ailleurs, voilà, un viol toutes les 30 minutes, je crois, et un meurtre tous les deux jours et demi. En vrai. Ben, moi, je veux bien avoir le luxe de vivre ma vie. Malheureusement, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, quoi, en vrai.
Merci à toutes les trois. Est-ce qu'on peut peut-être dire un petit mot à propos d'écoféminisme? Je sais qu'il y a une entrée dans le livre que j'ai pas encore lue, d'ailleurs, cette entrée en particulier. Pour moi, de mon point de vue, alors j'ai l'impression que l'écoféminisme a un peu le vent en poupe. Il y a beaucoup de publications et des publications qui, à mon sens, des fois essentialisent beaucoup. Donc pour moi, ça peut être un peu problématique. Ça éloigne de certaines luttes politiques. Je vois des gens, des copines aussi, me dire « bah tiens, j'ai découvert l'écoféminisme ». Donc elles ne me parlent pas d'abord de féminisme, elles me parlent d'écoféminisme. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit risque, en fait, est-ce qu'on peut le resituer un peu, pour moi, enfin, qui est un petit peu lu sans, pas de manière exhaustive, c'est quand même aussi porté par des penseuses plutôt sud-américaines, enfin, d'après ce que j'ai lu, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite, une récupération possible et quelque chose qui est un peu périlleux par moment.
Ben, y a une entrée qui s'appelle écoféminisme radical par Myriam Bahafou et qui rappelle en fait la récupération qui rappelle que l'écoféminisme c'est avant tout une critique massive, frontale du capitalisme extractiviste et donc que ça a été que les mobilisations écoféministes historiques et desquelles alors après on peut remonter, mais et desquelles sont issues en fait un certain nombre de conceptualisations et de mobilisations écoféministes, c'est sur la question des barrages, de l'eau, c'est sur la question de la spoliation des terres, c'est sur la question de l'intoxication des terres, c'est sur la question de l'extractivisme minier, donc à la fois intoxication et aussi appauvrissement et spoliation des richesses, et c'est sur vraiment du vivre en fait et cette idée selon laquelle c'est à la fois une critique du capitalisme et une critique du colonialisme ou de ses formes contemporaines à travers l'impérialisme et de ces mouvements en parallèle il y a une conceptualisation très forte notamment aux États-Unis mais également et surtout en France dans les années 70 avec Françoise Debonne qui est en fait l'une des première théoricienne d'écologie et féminisme, ça a été d'articuler, mais là encore de façon ultra puissante, cette idée de la modernité comme une forme de gouvernement qui est un saccage des corps, du corps des femmes et l'environnement ou des ressources naturelles avec au nom finalement d'un sujet moderne, raisonnable, rationnel qui vient au monde comme propriétaire de tout et qui se sent partout chez lui. Et donc pour moi c'est on parle d'intersectionnalité, c'est une partie des problématiques écoféministes articulent les antagonismes de classe, le racisme et le sexisme de façon totale et à mon sens extrêmement riche. Après, qu'il y ait une récupération que doucement, gentiment, on peut dire, allons faire un rituel pour le solstice d'été. moi j'adore, hein. Enfin, c'est pas une, un jugement, mais si ça s'arrête là, effectivement on peut dire que c'est gentil, mais de la même façon que L'Oréal reprend et récupère le féminisme, de la même façon que des gouvernements voilà, avec des ministres qui sont présumés, enfin qui sont accusés de viol, son ministre précisément se dit, enfin, est un gouvernement qui se dit défenseur des droits des femmes. Vous voyez les contradictions, malheureusement. Voilà, ça, c'est encore une fois, c'est une façon de couper l'herbe sous le pied et de tenter d'éteindre le feu partout où il s'allume. Mais voilà, c'est plus que des traînées de poudre. C'est que, de toute façon, ça brûle partout.
On a le temps de prendre d'autres questions. Ah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bon, je vais en profiter pour en poser une, en attendant que voilà. Je me demandais, je sais plus où, si je t'ai entendu le dire, ou si, mais tu invitais en fait les lectrices à se saisir de ce livre comme d'une arme, comme d'un outil. Alors, est-ce que on pourrait parler un petit peu de ça, de stratégie, et que comment on peut prendre lire ce livre, en fait, comme une arme pour se défendre?
Ben, moi qui l'ai lu, du coup, voilà, moins que je l'ai pensé, ben, moi je l'ai trouvé comment, en pouvoir, hein. Parce que, en fait, comment dire, il propose plein de choses. Avec toujours, enfin moi j'ai enfin bon, c'est un peu mon dada, mais vraiment l'idée de d'imaginer pour enfin pour contourner les logiques essentialisantes et les cadenas et tout ça. Et en fait là c'est plein d'exemples de choses qui sont imaginées, qui sortent, enfin certes, enfin voilà, bon, on a parlé de sujets qui sont centraux dans le féminisme, mais il y a aussi plein de manières de, je sais pas, de d'envisager le quotidien, de faire un quotidien militant, une sorte de comment dire, justement une manière de vivre, enfin du coup de vivre sa vie, mais en ayant bien conscience de tout ce qui derrière, enfin c'est à la fois désespérant de voir que tout est cadenassé, mais en même temps c'est vachement stimulant, et ça donne vachement d'espoir de voir qu'il y a plein de gens qui se battent de plein de manières différentes, en réimaginant le monde en fait à partir de leur forme de militantisme ou de leur forme juste d'existence. Et voilà, enfin moi j'ai trouvé que ce livre en fait il est aussi, c'est marrant parce qu'il y a une, je trouve, une balance entre identité et communauté dans ce livre, enfin l'idée que ben voilà, c'est la réalisation aussi de ce dont tu parlais tout à l'heure, de la conscientisation et tout ça, enfin individuel, mais aussi la force du collectif, et du coup la force d'un collectif que moi j'imaginais pas trop au final, c'est-à-dire que même si c'est différents collectifs, ben moi je trouve que ce livre il montre qu'il y a un collectif quoi, et qu'il y a enfin vraiment que ces concomitances et ces concordances, elles sont tout sauf anodines aussi, et que justement tu disais qu'il y a la poudre partout, c'est clair, et enfin il faudrait pas grand chose.
Oui, puis je pensais aussi, il y a tellement de choses qui sont importantes sur la question des enjeux sur la grossophobie, sur l'antiféminisme, sur la question de la PMA, sur, enfin, sur les prisons. Il y a un très très beau texte de Geneviève Vernanos sur du collectif Mères Solidaires, sur qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme au parloir et d'aller apporter à son fils des vêtements, et aussi qu'est-ce que ça dit de nous, qu'est-ce que ça signifie en termes de, justement, de politique, de politique et de rapport de pouvoir en termes de genre, de sexualité, dans le milieu carcéral. Voilà, il y a énormément de choses qui créent une sorte de paysage qui fait que c'est une arme, parce qu'on y trouve en fait justement des récits, on y trouve des notions, on y trouve des références de collectifs, on y trouve aussi une mémoire, on se fabrique notre propre mémoire. Et ça, une des choses qui était importante pour moi était de dire, cette fois-ci, on ne va pas repartir à zéro. C'est-à-dire, cette fois-ci, il n'y aura pas un effacement des précédents immédiats qui nous ont portés. Et c'est aussi des formes de s'appuyer sur chacun de ces collectifs et des prochains pour aller plus avant dans une réalisation des formes de libération. Et puis la dernière chose, c'est qu'il fallait que ça soit très gros. Après, aucune page est inutile, hein, mais il fallait que ça soit très gros, que ça reste peu cher. Et je remercie Libertalia, en fait, qui est absolument une maison d'édition indépendante géniale et qui a fait un beau livre tout en disant, voilà, il faut que ça soit accessible, même s'il y a autant de pages. Et on s'est dit, alors, c'est un peu compliqué de le mettre dans la poche, en revanche, c'est une excellente arme par destination. Et ça, c'était très important pour moi. Et donc, ça, vraiment, c'est excellent. Alors, il faut éviter de faire des grands gestes comme ça, parce qu'on peut être désarmé. Mais comme ça, latéralement, c'est excellent. Voilà, je le dis parce que c'est toujours bon à savoir.
Y a-t-il d'autres questions ou des remarques? Oui.
Donc bonsoir.
On m'entend?
Alors, c'est de ce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de convergences sur beaucoup de sujets, mais j'ai aussi une expérience de différence de point de vue sur des sujets comme l'abolitionnisme, la GPA. Et je me demandais si vous aviez réfléchi à une forme de solution pour essayer que ce ne soit pas ces sujets-là qui fassent le débat et qui empêchent une bataille. Parce que je trouve que c'est ça gâche. Enfin, il me semble que ça gâche beaucoup. Et si vous aviez, parce que moi j'en ai pas, si vous aviez cherché une solution par rapport à ça.
Oui, bah merci de cette question parce que c'est quelque chose auquel j'ai énormément réfléchi. Quand même, il y a un positionnement, il y a un positionnement politique, c'est-à-dire qu'on se situe quand même sur une ligne très clairement. Qui est plutôt voilà, des radicalismes, des anarchismes, des matérialismes marxistes, internationalistes, etc. Donc très clairement, je veux dire, ce n'est pas, il n'y avait pas de raison pour moi de donner place à des courants du féminisme qui sont légalistes, qui s'inscrivent dans une tradition légaliste ou qui s'autoproclame universaliste, etc. Il y a une très belle entrée universalisme qui est faite par Rokhaya Diallo. Et que, voilà. Donc, c'est... Mais dans cette... de ce côté-là, quoi. Il y a beaucoup de conflits aussi. Il y a beaucoup de positions et de... Il y a aussi des conflits sororicides. Il y a aussi du fight sérieux, quoi. Enfin, voilà, sur un certain nombre de sujets. L'idée, c'était que, à la fois, de jamais aplanir les désaccords ou les positionnements divergents, parce que on a besoin aussi de conflictualité, on a besoin de le déplier, on a besoin de le penser, on a besoin de le discuter. Mais j'avais conscience, je suis pas naïve et je suis aussi dans précisément dans le féminisme, dans certains il y a des formes de crispation très forte sur un certain nombre de sujets. Moi, j'ai proposé en fait deux façons de le prendre. Typiquement, je prends l'exemple de la prostitution, du travail prostitutionnel, et donc avec un champ de mine sur des positions sur lesquelles on pourrait revenir. Mais c'est Morgane Merteuil qui fait l'article. Elle ne le fait pas sur prostitution. Elle fait l'article sur travail. Reprenons juste la question, par exemple, de la prostitution, évidemment sur la question de l'appropriation, les violences, la traite, etc. Mais aussi prenons-la dans un sens vraiment marxiste de travail. et réfléchissant à la notion de travail. Donc c'était une façon aussi de déplacer un tout petit peu les cadres du débat ou de déplacer un peu les termes de la dispute, quoi, même si elle est très sévère, celle-ci. La question, qui n'est pas une question en fait, sur les enjeux transféministes. Par exemple, c'était hors de question de discuter avec ou de laisser la place à des courants qui sont excluants sur les collectifs transféministes. Mais en revanche, c'était aussi intéressant de pas spécialement avoir une entrée transféminisme, mais plutôt justement de demander à Karine Espinera, qui est une très très grande militante féministe, transféministe en France, de faire l'article bibliothèque. Et elle raconte dans l'article ce qu'elle a dans sa bibliothèque. Et elle raconte tous les livres qui l'ont complètement forgée, construite comme militante, etc. Et je trouvais ça, voilà, c'était une façon aussi de ramener un tout petit peu de soin, quoi, de nous. C'était certaines choses comme ça. Autre, je réfléchissais juste à un autre. Et sur PMA. GPA. Ah, il n'y a pas GPA. Bon, ça, c'est mon propre, angle. Enfin, bon, Et moi aussi, je suis positionnée, en fait. J'avais pas envie, pour le coup. GPA, j'avais pas envie d'y aller. Par contre, PMA, OK, il n'y a pas de problème. GPA, j'avais pas envie d'y aller. Et du coup, j'avais pas envie de ça. Voilà. Mais ça, c'est aussi, voilà, il faut bien savoir que c'est à la fois un collectif qui vit, qui est très libre, qui est machin, mais il y a une forme de la carte, c'est quand même aussi, depuis mon point de vue avec d'autres, mais c'est aussi, il y a c'est une perspective. C'est pour ça que c'est, très clairement, c'est pas exclusif, évidemment.
Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Alors, on conclut ? Ok. Alors, pour conclure, je voulais proposer, mais tu n'es pas obligée, de lire quelques lignes de ton introduction. Okay. Mais si tu préfères que je les lise moi-même, je peux le faire.
Non, ça dépend.
Ok. Je les ai trouvées inspirantes et pour qu'on se quitte tous sur une note vraiment... à partir d'ici, est-ce que jusque-là ?
Oui, donc je commence là, c'est ça ? Ouais, donc ce livre est dédié à toutes les résistantes anonymes au quotidien des violences les plus crasses, à celles qui embrasent les tribunaux, cassent des genoux et brisent les vitrines, à celles qui inventent 1000 tactiques imperceptibles pour survivre et se mettre à l'abri, à la mémoire de celles dont les noms recouvrent les murs de nos villes la nuit, à la puissance des collectifs qui se font, à ceux qui se sont défaits, qui se sont reconstitués ailleurs ou autrement, à ceux qui nous lient.
Radio Livre.